La tradition, ça n'a aucun sens dans le sens où c'était une innovation à une époque. Vous regardez le Paris-Brest, le mec qui a fait quand même le gâteau avec un trou au milieu en forme de roue de vélo, il a dû passer pour un bargeot à l'époque pour se dire « c'est quoi ce truc ou c'est innovant ?» Et finalement, c'est innovant, mais comme ça fait ses preuves, dans le goût, dans les textures, et que les gens ont adopté ce gâteau, c'est devenu traditionnel.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Je devais décrire ma manière de cuisiner, je dirais que je fais partie des gens qui aiment les improvisations. Les « ah tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ?» Les recettes un peu suivies, mais souvent amendées. Les entorses à la règle, les tests et les associations d'ingrédients inopinés. C'est pour ça que je me sens plus à l'aise dans la cuisine salée qu'en pâtisserie. J'aime inventer, tenter, assaisonner, goûter, rectifier au-dessus de la marmite, la tête dans les effluves, ragaillardie par la faim qui monte, comme une joyeuse vague qui naît dans le creux du ventre et arrive jusqu'aux narines, chatouillée par l'odeur d'un oignon en train de suer dans du beurre. Je suis donc toujours impressionnée par celles et ceux qui ne ratent jamais en pâtisserie. Je les compare à de minutieux horlogers ou des musiciens et musiciennes aguerris, capables de suivre avec grand soin leur partition, avec leur verre doseur, leur blanc monté en neige, leur ganache qui refroidit au frais et leur pré-cuisson de fond de tarte. En fait, ce qui est merveilleux avec la cuisine, c'est cette double dimension, créativité et rigueur, envolée lyrique et exacte interprétation, invention et tradition. Et dans tout ça, malgré toute son apparente exubérance artistique, se jouent à chaque fois des mécanismes qui relèvent de la science en cuisine. Dans cet épisode de Bouffon, je rencontre Raphaël Aumont, chercheur en physico-chimie des matériaux et professeur des universités à Paris-Saclay. Raphaël Aumont est l'auteur de « L'innovation au fourneau », un ouvrage coécrit avec Thierry Marx. Ensemble, le chimiste et le chef ont créé le Centre français d'innovation culinaire. Celui qui dirige la chaire universitaire « Cuisine du futur » à Paris-Saclay raconte au micro de Bouffon les liens intimes qui existent entre science et cuisine. Dans l'épisode, vous l'entendrez également démonter quelques idées reçues à propos de vieilles techniques culinaires. J'aimerais beaucoup qu'on revienne sur les liens entre cuisine et science, deux univers qui, de prime abord, peuvent paraître éloignés, peut-être, quand on y pense spontanément. Et en fait, non.
Alors, c'est vrai, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que cuisine, il y a le côté émotion, partage, on fait plaisir à des amis, on fait plaisir à sa famille, etc. Et puis, le côté dit scientifique ou même moléculaire, on se dit, oh là là, mais au secours, blouse blanche, c'est rationnel, c'est des équations, j'y comprends rien. Et en fait, pas du tout, parce que tout est moléculaire déjà. Donc, cette cuisine dite moléculaire ou innovante ou je ne sais pas quoi, en fait, c'est une cuisine qui est épaulée de la science. Et comme vous le dites très justement, finalement, c'est la cuisine, c'est des sciences. Parce que quand vous faites une réaction de Maillard, c'est-à-dire vous faites un steak qui est grillé dans la poêle, eh bien, il y a de la coloration, il y a des couleurs, il y a des odeurs nouvelles qui apparaissent, donc il y a des réactions chimiques. Voilà, tout simplement. Mais quand vous mettez un sachet de thé dans de l'eau chaude, ben, c'est aussi des histoires de réactions, de diffusion, d'oxydation. Vous coupez un avocat, 2 heures après, il est un petit peu noir, c'est des réactions. Alors, des fois, c'est des réactions qu'on appelle parasites, parce qu'on n'aimerait pas que l'avocat devienne noir. Et puis, des fois, au contraire, vous coupez une pomme, elle devient noire, mais c'est ça qui va donner naissance au goût du cidre. Donc, c'est toujours intéressant de comprendre ce qui se passe quand on cuisine, ce qui se passe dans les procédés, en fait, de science de la cuisine, pour maîtriser les préparations et ensuite pour innover.
Alors, justement, dans votre livre, vous citez Bria Savarin, qui est critique gastronomique, qui disait dans Physiologie du goût, sorti en 1826, que la gastronomie tient à l'histoire naturelle par la classification qu'elle fait des substances alimentaires, à la physique par l'examen de leur composition et de leur qualité, et à la chimie par les diverses analyses et décompositions qu'elle fait subir. Donc il y a cette histoire de physique, de chimie, de biologie. Il y a plusieurs paramètres du coup qu'on
prend
en compte.
Et oui, tout à fait, parce que là, on parlait tout à l'heure d'un steak dans une poêle, bah, vous jouez sur la température. Quand vous travaillez avec un autocuiseur, une cocotte minute, on peut aussi augmenter la pression pour modifier la température. Donc, il y a pression, température, vous voyez, ce sont des paramètres physiques. Une histoire de chimie, parce que comme on l'a dit aussi, oxydation, phénomène de diffusion, tiens, vous mettez du sel sur une viande, est-ce que vraiment l'eau va sortir de la viande? Donc ça, c'est des phénomènes de chimie. Des phénomènes microbiologiques, tout ce qui est fermentation, oxydation, des réactions enzymatiques, donc tout ça, c'est quelque part, c'est de la vie. Et puis maintenant, on peut même ajouter des côtés aussi nutritionnels, donc santé, médecine. Et même, On peut citer Archestrate, hein, la cuisine, plaisir, bien-être, santé, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'est toujours une affaire de science, en fait, mais en général.
Alors, j'aimerais beaucoup qu'on revienne aussi sur l'expression cuisine moléculaire que vous avez employée tout à l'heure. Parce que c'est vrai que quand on parle de science, on pense aussi assez rapidement au mot innovation.
Oui.
Et une expression qui a longtemps connoté l'innovation, ou en tout cas le futur de la cuisine, c'est justement cuisine moléculaire. Mais c'est aussi pas forcément une expression qu'on aime beaucoup. En tout cas, ça ne nous donne pas toujours l'impression que la cuisine va être généreuse.
Oui, parce qu'en fait, le gros problème de ça, c'est qu'on a considéré la cuisine moléculaire comme une espèce de tendance, c'est-à-dire une mode. On dit, tiens, alors tu veux manger quoi ce soir? Japonais, français, italien, moléculaire? Si on démarre là-dessus, c'est mort. Parce que ça veut dire qu'on considère que c'est une mode, donc une tendance. Donc, on va essayer d'adopter des codes qui ne sont pas les bons. Donc, on a tous vu des caricatures avec... Je mets un peu d'azote dans un verre, ça fait de la fumée. Ah, regardez, c'est un cocktail moléculaire, 25 euros. Je fais trois petites billes d'alginate qui sont en fait des espèces de bouts de plastique quand c'est mal fait. Ça n'a aucun intérêt. Et comme vous dites, des fois, il y a un manque de générosité parce qu'on se dit, tiens, c'est minimaliste. Ah oui, mais c'est moléculaire, c'est moderne. Et pas du tout. Donc, pour moi, la définition qu'on a, et c'est la définition que j'ai la chance de travailler avec Thierry Marx, on se dit, cette cuisine dite moléculaire, c'est plutôt une cuisine innovante dans le sens où c'est une cuisine qui est aidée, épaulée par la science. La science, elle apporte des outils. Elle va vous dire comment bien cuire un œuf, à quelle température ça coagule, à quelle concentration de pectine une confiture va juste prendre, ce qu'on appelle un semi-prix, tremblotant. Elle va vous dire, par exemple, les associations de saveurs, avec quoi ça fonctionne mieux en bouche. Par exemple, on a mangue passion, chocolat menthe. Et si on essayait d'autres associations, la chimie peut nous aider avec ça.
Est-ce que mêler la science à la cuisine, ça permettrait pas aussi un peu de faire descendre, parfois, de temps en temps, quand c'est mérité, de son piédestal la tradition? Parce que j'ai l'impression donc, que la tradition, bien sûr, c'est plutôt positif dit comme ça en cuisine, ça protège des savoir-faire, c'est un socle de connaissances qu'on se transmet dans l'ombre des cuisines, qu'on chuchote à l'oreille des cuisines familiales. Mais c'est aussi parfois un argument d'autorité, la tradition.
C'est un argument d'autorité et c'est parfois un boulet au pied, parce qu'on dit assez traditionnel dans le sens où tu ne peux pas y toucher. Le problème, c'est que ça, c'est très français d'opposer tradition et innovation. Et c'est ce que dit très bien Thierry Marx, il n'y a pas de conflit à créer entre tradition et innovation. Vous allez au Japon, c'est un mélange qui est on ne peut plus moderne et avec la tradition. Et il n'y a pas de conflit avec ça. Donc on puise de l'histoire, de la tradition, des vérités, des choses qui restent. Ça c'est Nietzsche, hein. Ce qui est utile restera. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tradition, ça n'a aucun sens dans le sens où c'était une innovation à une époque. Vous regardez le Paris-Brest. Le mec qui a fait quand même le gâteau avec un trou au milieu en forme de roue de vélo, il a dû passer pour un barjot à l'époque pour se dire « c'est quoi ce truc ou c'est innovant ?» Et finalement, c'est innovant, mais comme ça fait ses preuves dans le goût, dans les textures et que les gens ont adopté ce gâteau, c'est devenu traditionnel. Et plein d'autres choses, c'est-à-dire que voilà, parce que c'est traditionnel, on n'y touche pas. Et on apprend ça encore dans les écoles. Vous citez le chocolat, c'est un très bon exemple. On dit « le chocolat n'aime pas l'eau ». Mais ça veut dire quoi ce truc? C'est-à-dire que le chocolat, c'est un corps gras. Un corps gras, un chimiste sait que si on le mélange avec un liquide aqueux, ça fera une émulsion. Donc, on peut faire une émulsion de chocolat. De la même façon qu'on fait une mayonnaise, on pourrait faire une sorte de mayonnaise de chocolat. Donc, on peut créer des mousses de chocolat. Et on se dit, tiens, il n'y a peut-être pas besoin qu'il y ait du blanc d'œuf pour faire mousser. La science de la cuisine, ou cette cuisine dite innovante ou moléculaire, elle va prendre un peu de recul, elle va dire, pourquoi on fait les choses? Donc, pourquoi on met maintenant ça? Pourquoi il faut vraiment attendre une demi-heure? Une marinade, quand j'entends des chefs à la télé dire « Tiens, on met une demi-heure au frais, ça marine pas, ça assaisonne. » Une marinade, pour que les arômes rentrent vraiment dans la viande, il faut au moins 24 heures pour 1 mm. Donc, c'est bêtise. Par exemple, quand vous cuisez des œufs, on nous dit « Ah, moi, je démarre à l'eau chaude, moi, je démarre à l'eau froide, moi, je mets une pincée de sel. Ah bon, pourquoi ?» Je sais pas, c'est la tradition, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça, c'est mon voisin, j'ai entendu un chef à la télé, il avait l'air costaud avec un col bleu blanc rouge, alors j'ai fait confiance. Mais on vérifie au labo, on fait des tests et on se dit finalement, mettre du sel dans l'eau de cuisson des œufs, ça n'a absolument aucun sens. Ça augmente la température d'ébullition. Donc, ils surcuisent, ça donne des mauvaises odeurs, ça va s'écaler encore moins facilement, etc. etc. Mais on prend un peu de recul sur ce qu'on fait. C'est ça, modestement, ce qu'on essaye de faire au labo.
Donc, quand vous vous inscrivez dans une recherche d'innovation culinaire, ce que vous faites finalement, c'est lister les étapes, lister les ingrédients et essayer de comprendre exactement pourquoi...
Le rôle de chacun. Le rôle de chaque ingrédient. Et après, ce qu'on appelle la synergie, c'est-à-dire la façon dont ces ingrédients, dont les molécules de ces ingrédients réagissent entre eux. Par exemple, si tu cuis des carottes, d'un côté, bon, il y a des sucres. La carotte est l'un des légumes les plus sucrés. Il y a des sucres libres. Très bien. Tu cuis des pois chiches dans une autre casserole. Pois chiches, riches en protéines, l'aquafaba, sa mousse, machin chouette. OK. Mais maintenant, si vous prenez dans une même casserole ou d'une même poêle les pois chiches et les carottes et vous les cuisez ensemble, vous êtes en train de mettre dans une même casserole des protéines et du sucre et vous ajoutez de la chaleur. Et là, réaction de Maillard. Réaction de Maillard, chimiste français, qui vous dit que les protéines et les sucres réagissent ensemble pour former des nouvelles molécules. Certaines sont aromatiques et certaines sont des pigments. Conclusion, eh ben, votre mélange de légumes, carottes, pois chiches, il n'aura pas le même goût s'ils sont cuits ensemble, alors que s'ils avaient été cuits séparément. C'est tout bête. Vous voyez, c'est une astuce très pratique chez soi de se dire, tiens, les légumes aussi, ça réagit un peu comme les viandes, un peu comme le café torréfié, un peu comme la croûte de pain. Eh bien, créons de nouvelles saveurs et rendons ces légumes un peu meilleurs.
Donc là, évidemment, c'est de la science.
Oui.
Ce qui est de la science aussi, c'est de réfléchir à dans quel ordre on mange les choses. Mmh. Et là encore, il y a un passage que j'ai trouvé hyper intéressant dans votre livre à propos du menu. Le menu, du coup, le principe même d'ordonner, d'agencer différents plats en réfléchissant à leur texture, à leur saveur et donc à la meilleure manière de les organiser pour un repas. Et c'est une idée dans les pays occidentaux qui est plutôt née au 19e siècle, dans peut-être plutôt les cercles bourgeois.
Oui.
Mais vous précisez que bien des siècles avant, ça existait déjà au Japon, avec la cuisine kaiseki.
Exactement, c'est-à-dire que l'objectif, mais même en tant que nous consommateurs, en fait, quand on va au restaurant, c'est pour avoir de l'émotion. Comment on procure de l'émotion quand on est assis devant des couverts? C'est parce qu'on va manger des choses et on va voyager avec nos papilles, avec les yeux évidemment, puisque les plats ils sont beaux, ils sont joliment dressés, il y a des couleurs, il y a des jeux de textures. Mais surtout en termes de saveur, il va se passer des choses. Et donc si on mange des choses de façon très lisse, on va s'ennuyer. Avant, les assiettes, c'était des grosses assiettes, on était là pour manger, la première cuillère avait le goût de la dernière.
On se nourrissait.
On se nourrissait, exactement. On se restaurait. L'inspiration avec la cuisine kaiseki est extrêmement intéressante parce que c'est plein de petits plats, donc ce n'est pas entrée, plat, dessert au Japon. Il y a peut-être entre 9, 12 plats, des petites séquences. Et du coup, on va prendre des choses un peu iodées. Puis après, il va y avoir une sorte de virgule un peu amère. Et puis, on va partir sur du salé. Puis, on va avoir un peu de sucré. Et puis, on va comme ça se déplacer dans tous nos sens, toutes les textures, toutes les couleurs. Et on va pas manger beaucoup, mais on a des vraies émotions et on sort de là, on se dit « Waouh, c'était un beau moment ». Voilà. Et c'était pas uniquement « Ah, je me suis bien mangé, je me suis bien gavé, j'ai le ventre plein, ça c'est fini ». Bon, il y en a qui pensent encore comme ça, mais je pense que ça devient de moins en moins. Mais oui, c'est un voyage.
Et manger de cette façon, du coup, c'est faire honneur au sens, au papilles. Enfin, il y a une idée de raffinement.
Oui.
Finalement, aujourd'hui, avec l'offre de l'industrie agroalimentaire qui a tendance à simplifier les gestes culinaires, au contraire, on perd des choses comme ça. Vous citez à un moment l'histoire de la mayonnaise dans la sauce bourguignonne.
Qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez complètement raison. L'agroalimentaire, ils nourrissent des millions de personnes tous les jours et ils font bien puisqu'on est encore là et globalement, notre durée de vie est de plus en plus importante. Mais il y a des dérives, et notamment dans les produits ultra transformés, où là, effectivement, pour des histoires d'argent, on va mettre beaucoup d'eau dans les produits, donc on va les couper, on va mettre des tas d'additifs pour essayer de compenser les textures ou les goûts qui manquaient. Et puis, il y a aussi, effectivement, comme vous le dites très justement, il y a une espèce de revisite des plats, c'est-à-dire cette sauce bourguignonne ou cette sauce hollandaise ou... Même une sauce béarnaise, on se dit, mais c'était quoi l'histoire de la sauce bourguignonne? Ah bon, c'est une réduction avec des échalotes, du vin blanc et tout ça? Ah, je croyais que c'était une mayonnaise type avec un peu de ketchup, genre les sauces corail ou les sauces samouraï, la bon marché qu'on voit partout. Et c'est pas ça l'histoire. Donc, ils relisent un peu trop vite parfois l'histoire, la tradition dite française, justement, pour simplifier et pour baisser les coûts. Donc ça, c'est dommage parce qu'on va perdre un peu cette culture de la complexité de la cuisine française.
Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de produits qui ont été simplifiés par la production en masse?
Il y en a plein, hélas. C'est-à-dire que même quand vous regardez un cordon bleu, le vrai cordon bleu, il est facile à faire chez soi. C'était des restes à la base de pain qui était un peu sec, la chapelure maison. On prenait un morceau de viande, parfois, comme il avait des formes un peu bizarres, on le tapait pour le lisser. Un bout de jambon ou un bout de fromage et on faisait nous-mêmes une panure. Donc, panure avec un œuf, du reste de pain, un peu de jambon et une escalope, et on est à 4 ingrédients. Aujourd'hui, vous lisez une étiquette de certains cordons bleus, il y a 36 ingrédients dans un cordon bleu, avec une viande reconstituée, du jambon reconstitué, du faux fromage, des panures qui ne contiennent même pas de pain. Vous voyez, ça n'a aucun sens, ça. Et donc, on perd. Donc là, c'est vraiment pour des histoires d'économie ou de je ne sais pas quoi. Et alors, le pire, c'est qu'on arrive à lisser en mettant plein de sucre. On lisse le palais. On lisse les goûts des consommateurs, on fait que des textures molles, faciles à manger, on avale un cordon bleu en 3 minutes 50 et il ne se passe rien et on crève de faim et on se bourre de calories et c'est juste catastrophique. Donc voilà, mais les sauces dont on parlait, les sauces bourguignonnes, les sauces... toutes les sauces ont été massacrées. Le ketchup, par exemple. La vraie histoire du ketchup, c'est quand même prendre des tomates, les mettre à réduire très très lentement comme une sauce tomate très concentrée, dans laquelle on rajoutait des épices, un peu de carotte qui est aussi sucrée, des oignons, et c'est tout. Et aujourd'hui, bah, c'est coupé à l'eau, c'est avec 26% de sucre dans un ketchup. C'est juste hallucinant. Donc, tous les produits ultra transformés, il n'y a rien qui existe. Hein. Le surimi n'existait pas. Les knackis, c'est une pure invention. Enfin, même le surimi, c'est très intéressant parce que le surimi, ça existait. C'était des pains de poisson japonais pour avoir cette réserve de protéines en hiver. Et là, c'est pareil. Ça a été réinterprété complètement par l'agroalimentaire qu'on a fait un massacre. Alors aujourd'hui, quand même, ils sont en train de revenir un peu à des bases de plus raisonnées. Enfin, quand même, il y a encore un peu de chemin. Hein.
Sur le surimi, il y a un truc qui m'a vraiment fait rire l'autre fois, mais et en même temps, l'industrie vraiment redouble toujours d'ingéniosité. C'était sur Twitter, c'était une cliente qui racontait qu'elle pensait avoir acheté des noix de Saint-Jacques, en tout cas industrielles, mises sous vide, et parce que ça avait vraiment la forme, et puis c'était écrit « noix de la mer ». Sans préciser Saint-Jacques. Mais bon, comme il y avait le mot noix, elle s'est dit que ça devait être des noix de Saint-Jacques. Elle les a cuisinées et quand elle a sorti ça en fait, de la boîte pour les mettre dans la poêle, elle s'était rendue compte qu'en gros, c'était jamais que des bouts de surimi, mais en fait, la fin du surimi.
Les fibres reconstituées.
Voilà. Et en tout petit, c'était écrit à base de colin d'Alaska.
Ah bah oui. Mais c'est fou parce que vous soulignez aussi le problème du marketing. Et c'est ça, c'est tellement bien emballé, il y a les mots qui vont bien. Il y a même des fois des grosses étiquettes sur on voit Nutri-Score B, machin, on se dit tiens, c'est super, c'est génial, et pas du tout en fait, et c'est juste catastrophique. Et là, mon histoire de mon cordon bleu, là, il y a un Nutri-Score B dessus, une grosse étiquette, c'est marqué 100% filet de viande. Quand on regarde 100% et qu'on lit l'étiquette derrière, c'est de l'eau, de la viande qui est récupérée sur carcasse de poulet, le tout mixé avec des additifs.
Autre point scientifique qui joue beaucoup sur le goût en cuisine, la coupe, la découpe des légumes ou de la viande, comment on peut expliquer ça? Pourquoi, alors, par exemple, des légumes coupés en brunoise, ça va avoir un goût différent de si on les fait en tranches?
Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que dans les découpes, il y a d'abord, les, on va dire, découpe des viandes et des poissons. Il faut respecter les fibres. Alors, ça, c'est ce que dit Thierry Marx. Il m'a enseigné ça. Coupe juste, goût juste. C'est-à-dire, vous regardez, je cite souvent le Japon, mais les sushis, par exemple, il y a plein de sushis français qui sont qui sont vraiment pas bons, on va dire. J'allais dire un gros mot. C'est le riz est froid, le poisson est mal coupé. Conclusion, c'est élastique, c'est caoutchouteux. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les sushis en France. Et ils ont raison. Et moi, j'ai découvert les vrais sushis au Japon, où justement, le sushi-san devant moi coupe une dorade, je me rappelle encore, dans le sens des fibres du poisson. Du coup, c'était extrêmement fondant en bouche. Mais comme le calamar, qui peut être un vrai caoutchouc en France et qui peut être juste merveilleux en Espagne, en sorte de teppanyaki ou au Japon. Donc, il faut comprendre comment est structuré le légume ou le poisson, les fibres, et du coup, couper pour nous faciliter la mâche et donc les textures en bouche. Ça, c'est la première chose. Et après, vous parliez des légumes. Quand vous coupez en brunoise ou alors en julienne, etc., vous changez la surface du légume. C'est-à-dire que, pour faire simple, vous avez un gros morceau de légume, vous le coupez en quatre. Vous avez quatre petits morceaux, enfin vous avez huit morceaux. Vous recoupez en quatre, en quatre, en quatre. À chaque fois, vous avez toujours le même volume de légumes, mais vous augmentez la surface. Parce que vous coupez, vous coupez, vous coupez. Et nous, on mange de la surface. Et les molécules réagissent grâce à ces échanges en surface. Donc, plus vous allez couper de la matière, plus vous allez créer ces réactions. Les réactions de Maillard dont on parlait, les réactions de goût en bouche. Et donc, vous n'aurez pas du tout les mêmes saveurs. Alors que pourtant, vous dites, bah tiens, pourtant, c'est une carotte. Oui, mais une carotte bien coupée. Mmh. Et qui, si c'est coupé de façon régulière, ça va cuire de façon régulière. Donc, il y aura toujours les mêmes textures, donc les mêmes saveurs derrière. C'est ça qui est intéressant.
Pour illustrer ce point, il y a l'exemple peut-être aussi de la glace que vous prenez dans votre livre.
Ouais.
Quand on fait de la glace avec une sorbetière, donc un peu classiquement,
tout à fait.
Ce qui va se passer, c'est que du coup, la sorbetière vraiment ménagère, elle va refroidir le tout lentement.
Exactement.
Donc, ça va créer de gros cristaux.
Des cristaux de glace.
Voilà, de gros cristaux de glace. Alors que si on fait ça, on fait une glace à l'azote liquide, on va avoir un refroidissement très rapide.
C'est
et donc
ça.
De plus petits cristaux, très fins, onctueux, presque.
Voilà, vous venez de faire un cours de chimie. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'azote liquide, moins 196 degrés. Donc l'azote, c'est le diazote, hein, pour être rigoureux, c'est ce qu'on a dans la pièce. Hein, il y a 80% dans l'air. Et quand on le compresse, il devient liquide. Et donc, on se retrouve avec un liquide à moins 196 degrés. Donc, c'est un liquide extrêmement froid. Et alors, c'est sûr, ça fume, c'est joli, la télé adore ça, etc. Mais bien au-delà de cette fumée, il y a un vrai intérêt. C'est-à-dire que comme c'est un liquide ultra froid, eh bien, comme vous venez de l'expliquer très bien d'ailleurs, ça vient surgeler instantanément la préparation. Et donc, l'eau n'a pas le temps de faire des gros cristaux et va rester sous forme de très, très fines paillettes, voire même faire ce qu'on appelle une glace amorphe, c'est-à-dire qui n'est pas cristallisée. Et donc, eh bien, vous allez augmenter la surface d'échange, là encore, dont on parlait tout à l'heure avec vos papilles et tous vos récepteurs que vous avez en bouche, et les goûts vont être extraordinaires parce que vous n'avez pas ces espèces de paillettes. On a tous retrouvé à l'inverse une glace qui date de l'été dernier au fond de son congélateur avec des grosses paillettes de glace, l'espèce de sirop qui s'est délité, enfin, le truc qui n'est pas bon. Mauvaise texture, mauvais goût et parce que gros cristaux. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais du coup, l'azote liquide a vraiment un intérêt si on fait des vraies crèmes glacées. Et aussi, parce que du coup, on travaille très, très vite et qu'on a enlevé tous ces petits cristaux, il n'y a plus besoin d'ajouter des additifs de type des gommes. Parfois, c'est des gommes naturelles, hein, mais il y a des excès de sucre. Il y a des gommes à tour de bras dans la glacerie pour essayer de limiter cette formation de glace. Ben là, il n'y a pas besoin puisque c'est juste ce gaz qui est parti d'ailleurs après dans la pièce. Il ne reste rien. Vous mangez, prenez des fraises, vous les écrasez, vous mettez de l'azote liquide, vous avez un sorbet fraise qui a une texture absolument incroyable. On dirait un crémeux comme si on avait mis du gras. Et c'est 100% fruit. Zéro additif, zéro sucre ajouté, juste la physique au service de nouvelles émotions. Voilà la cuisine aussi moléculaire.
Et Raphaël, est-ce que vous pouvez nous dire aussi, nous lister quelques-unes des erreurs qu'on fait le plus communément en cuisine ?
Ah, il y en a un nombre. Je voulais en faire un bouquin parce que les astuces de cuisine, y en a plein. C'est-à-dire qu'on va... Des choses toutes bêtes, hein, mais par exemple, mettre les glaçons. On parlait des haricots tout à l'heure. On dit, tiens... Mais c'est des choses qu'on entend, hein, donc on le fait en fait. Pour fixer la couleur des haricots, on met des glaçons. C'est-à-dire on cuit les haricots puis on les balance dans plein de glaçons. Alors il faut plein d'eau pour cuire les haricots. Alors, il faut préparer un bac avec des glaçons et de l'eau. Enfin c'est le truc infernal. C'est, pour cuire 500 grammes de haricots, il vous faut 14 litres d'eau. Donc on gelait dans le truc. Bon. Et on se dit ça fixe la couleur. Ça fixe rien du tout. Ça stoppe la cuisson. Astuce qu'on a proposée avec Thierry Marx, vous prenez de l'eau gazeuse ou de l'eau riche en bicarbonate, ça va cuire deux fois plus vite, ça va garder le vert du légume, ça va le stabiliser et ce sera bien plus sympathique au niveau couleur en plus et odeur du légume. Et il n'y a même pas besoin de rajouter du sel parce que c'est de l'eau qui est naturellement salée. Vous voyez, voilà une bonne astuce. Autre astuce, par exemple, enfin autre chose que ce que vous m'avez dit, ce qu'on fait très mal, fariner le poisson en le cuire vous savez, c'est des trucs typiquement...
En meunière.
Voilà, mets un peu de farine parce que ça évite que ça colle. C'est le contraire, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la farine avec l'eau qui sort du poisson et le beurre, ça fait une espèce de panure, ça fait une pâte et ça colle dans la poêle à coup sûr. Donc, la stratégie, c'est plutôt de cuire sur un papier ou alors de saisir, on parlait des woks tout à l'heure. Les woks, c'est un tout petit peu d'huile au fond éventuellement et comme c'est saisi, ça va se rétracter, ça va se décoller tout de suite et là, ça l'attachera plus. Donc, il faut trouver aussi le bon outil de cuisine. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Piquer la viande, est-ce que ça sert à quelque chose de piquer des saucisses ? Je ne suis pas sûr, hein, il faut faire des tests. Hein. C'est-à-dire, moi, j'invite tous les gens qui nous écoutent justement à se dire, bah, tiens, je vais écouter. Alors, une saucisse, je vais la piquer, une saucisse, je ne vais pas la piquer et je vais comparer. Et là, vous serez surpris des résultats. Vous voyez, il y a plein de petites astuces comme ça, mais c'est au quotidien. Tourner en 8 la mayonnaise pour qu'elle monte mieux. On apprend des trucs comme ça encore. Hein. On se dit, ben non, c'est pas en 8 que ça va mieux monter. Ou alors, la mayonnaise, toujours, on nous dit, ah, il faut que le jaune sorte du frigo, mais que l'huile soit à température ambiante. Ou, ah non, il faut que l'œuf et l'huile soient à la même température, donc il faut sortir vos œufs 2 heures avant. Mais c'est juste une émulsion. Donc une émulsion, c'est, je prends l'eau du jaune d'œuf que je vais mélanger avec l'huile. Et ça peut se faire à température ambiante, comme au froid, comme à chaud, puisque la sauce hollandaise, elle existe. C'est aussi une émulsion. Par contre, je sais qu'il va me falloir un bon mixeur ou un bon fouet parce qu'il va falloir que je fasse une émulsion, c'est-à-dire disperser toute l'huile que j'ajoute en des gouttelettes très très fines qui ont la même taille pour que alors ça fasse une texture dite un peu solide. Vous voyez, c'est mettre une pincée de sel dans les blancs d'œufs pour que ça monte mieux, c'est pas vrai. On l'a fait au labo, ça ne monte pas mieux. La trace de jaune dans les blancs, ah, ça va pas monter. Bah si, ça monte. Il faut passer un peu plus de temps, mais ça finira quand même par monter. Donc, vous voyez, on peut en faire une liste absolument incroyable. Hein. On peut y passer l'après-midi.
Et les saucisses à piquer ou pas, moi, j'ai l'impression que ça les assècherait peut-être aussi.
Ça peut, bien sûr. Alors, ça dépend déjà si c'est un boyau naturel ou pas naturel. Parce que si c'est des plastiques, souvent, ça va percer le plastique et là, effectivement, ça va se rétracter. Si c'est un boyau naturel, normalement, ça respire suffisamment. Et puis, comme vous le dites très justement, ça peut dessécher puisque l'eau va partir préférentiellement par ce petit trou ou la matière grasse. Donc, mais il faut y aller quasiment au cas par cas, en fait, pour l'histoire des saucisses. Mmh. Le mieux, c'est de les pocher. Si je peux juste donner une astuce.
Ouais.
Vous mettez, par exemple, dans de l'eau vers 80 degrés. Surtout pas ébullition. Ça va commencer à coaguler la viande, puisque ça va cuire, du coup. Ça va bien cuire à cœur, cette saucisse, mais qui est juste pochée. Et alors après, vous la terminez snackée. Et là, en plus, comme ça, ça évite d'avoir trop de flammes, trop de benzopyrène, autre chose un peu toxique des barbecues. Et là, la cuisson sera juste parfaite parce que vous aurez le goût du feu. C'est une note qu'on appelle empyromatique, hein, empyros, le goût du feu. Et sans les méfaits du barbecue. Et en plus, ça ne va pas exploser.
J'ai une dernière question pour vous, Raphaël. Qu'est-ce que manger pour vous ?
Plaisir, vraiment. C'est-à-dire, c'est... Alors, il y a le manger dans le sens, il faut que ça me permet de rester en vie, hein, tout simplement, de m'apporter les bons nutriments, etc., ne pas être malade, hein, que seul ton aliment soit ton médicament, ça c'est Hippocrate, mais c'est du plaisir avant tout, parce que c'est vraiment des moments forts de la journée où on a des vraies émotions dont on parlait tout à l'heure, hein, puisque on mange avec les yeux, on mange avec l'ouïe, on mange avec évidemment le nez, enfin il y a tout un ensemble d'organes qu'on appelle donc organoleptiques, hein, les propriétés organoleptiques, mais c'est avant tout un plaisir fou. À la fois de manger, mais de donner à manger aussi, c'est-à-dire accueillir, recevoir ses amis, partager des émotions autour des repas. Et c'est d'ailleurs ça qui a été classé à l'UNESCO il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas le contenu de l'assiette, c'est le comment on mange ensemble, la commensalité. Et ça, c'est quand même des moments, je trouve, merveilleux. Je pense que vous êtes d'accord aussi.
Après cette interview, j'ai demandé à Raphaël Aumont s'il planchait sur l'étude d'autres astuces culinaires dans son labo d'innovation. Il m'a alors raconté que son grand rêve serait de réussir un jour à créer une île flottante dans la pièce, à l'hélium. Autrement dit, une espèce de nuage qui flotterait et qu'on pourrait manger sans avoir à le poser quelque part. Quand j'entends parler Raphaël, je me dis que la lycéenne que j'étais aurait peut-être davantage aimé les sciences si dans l'enseignement, elles étaient appliquées à des exercices pratiques, aussi drôles que le fait de vérifier la validité des techniques culinaires. Chercheur dans un centre d'innovation culinaire, ouais, c'était pas écrit dans les fiches UNICEF de mon bahut. Merci à Raphaël Aumont de nous avoir donné de son temps pour parler de science et de cuisine. Et si le sujet des expérimentations culinaires vous a plu, surveillez le programme. Bientôt, à la Cité des sciences et de l'industrie, l'exposition Banquet vous permettra d'interroger vos sens à travers un parcours culinaire immersif. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Donia Ouahada et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Maillot.